Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, aujourd'hui, nous commençons un traité important. Ils sont tous importants, mais un traité sur la charité. Donc, c'est un traité qui va couvrir dans la Seconda Seconde, donc deuxième partie de la deuxième partie, des questions 23 à question 46, voilà, sur le polycopier, page 93. Alors, dès qu'on parle de la charité, il faut tout de suite mettre les points sur les i et les barres sur les t, parce que je dirais 99% des gens, même parfois les catholiques, ont une fausse compréhension de la charité. C'est des mots qui ont été complètement galvaudés, détruits par l'esprit révolutionnaire, ce qui fait que les gens le comprennent dans un sens qui n'a plus rien à voir avec la réalité. C'est comme le mot amour. On sort ça à longueur de journée, ça ne veut plus rien dire pour les gens. Bon, le mot charité, c'est... pour beaucoup de gens, c'est simplement une charité purement naturelle. Ici, on traite, on est dans un traité de théologie, donc saint Thomas d'Aquin parle de la vertu théologale de charité. La vertu théologale de charité, c'est une vertu centrée sur Dieu. Tout est centré sur Dieu, c'est ça qui est tellement difficile pour le monde moderne d'accepter, qui refuse d'ailleurs complètement. Pour le monde moderne, tout doit être centré sur l'homme. Bon. Et si tout doit être centré sur Dieu, on est... déviateurs, si on est des pèlerins sur cette terre, et on vise le ciel. Donc la charité, c'est le ciel. La charité, c'est Dieu au ciel. Alors que pour le monde moderne, tout est centré sur l'homme. Jouir ici-bas, parce que tout s'arrête au trou du cimetière. En gros, c'est ça. Donc la charité est une vertu surnaturelle, instituée, donnée par Dieu, infuse par Dieu. Donc il faut, pour expliquer la charité, donner la définition de la charité, le mieux, c'est tout simplement de reprendre l'acte de charité, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de tout mon corps, de tout mon esprit, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Donc deux choses, d'une part l'amour de Dieu, d'autre part l'amour du prochain, mais pour l'amour de Dieu. C'est pas le prochain séparé de Dieu. La charité, c'est une vertu qui nous enchaîne à Dieu. Donc on aime le prochain dans la mesure où on aime le bon Dieu. On ne peut pas non plus, on va expliquer tout ça, on ne peut pas non plus prétendre aimer Dieu sans obéir à la loi du bon Dieu. Donc la vertu de charité a pour but l'obéissance. L'obéissance à la loi du bon Dieu. Et vouloir, comme fait le monde moderne, séparer, ou fait l'Église du Vatican II, séparer la vertu de charité de l'obéissance à la loi du bon Dieu, c'est du jugementfichisme complet, quoi. C'est vraiment de la bouillie pour chat, il n'y a plus rien qui reste. Parce que justement, la foi a pour but de nous faire croire, l'espérance de nous faire prier, mais la charité de nous faire obéir à la loi du bon Dieu. Donc si je n'obéis pas à la loi du bon Dieu, je ne peux pas prétendre avoir de la charité. Donc quelqu'un qui ne commence pas par vivre en état de grâce, ou chercher au moins à vivre en état de grâce toute la mesure du possible, quelqu'un qui n'a pas la vertu de charité, même s'il pratique des tas de choses très magnifiques sur le plan purement humain. Donc encore une fois, j'ai déjà souvent expliqué ça anciennement, mais il faut insister là-dessus quand on attaque la charité. Il faut complètement distinguer la charité naturelle et la charité surnaturelle. Vous pouvez avoir des kilos et des kilos de charité naturelle, c'est pas ça qui va vous donner annonce de charité surnaturelle, parce qu'il vous manque l'essentiel. C'est pas en aidant les pauvres, je dirais, que vous pratiquez la charité surnaturelle. Vous pratiquez la charité surnaturelle en aidant le pauvre, approcher du bon Dieu. Si, au contraire, on ne cherche pas à aider le pauvre à se rapprocher du bon Dieu, je dirais, notre charité naturelle ne cherche pas à grand-chose. Elle ne sert pas à grand chose. Bon, certes, on ne parle pas du bon Dieu à ventre vide, comme on dit. Donc, on a parfaitement le droit de commencer à aider les pauvres à se nourrir, les pauvres à avoir le minimum pour survivre. mais dans l'intention toujours de les amener vers le bon Dieu. On voit tout à fait ça dans l'esprit missionnaire. C'est pour ça que la véritable charité, charité surnaturelle, l'élément surnaturel de charité, entraîne l'esprit apostolique. C'est ce qu'a fait l'Église pendant 20 siècles. Pendant 20 siècles, l'Église a enseigné la véritable charité surnaturelle. C'était les moines, les prêtres qui partaient, les missionnaires qui partaient dans le monde entier pour se faire couper en rondelles et se faire dévorer par les moustiques dans les pays impossibles pour ramener notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Alors ça ne les empêchait pas d'aussi de faire des choses naturelles. Lorsque les missionnaires arrivaient en pleine forêt africaine, ils faisaient tout à la fois. Ils construisaient une église, ils enseignaient le catéchisme, ils enseignaient la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils aidaient aussi les pauvres Africains à savoir cultiver les champs, à savoir creuser un puits, à éradiquer les maladies épouvantables qui sévissaient dans ces contrées-là. Tout ça est uni. Mais le but, c'était d'abord les âmes, s'occuper des âmes. Aujourd'hui, les âmes, on s'en fiche. Le missionnaire qui part, le missionnaire de l'Église Vatican II qui part en Afrique, c'est pour aider les gens à trouver de l'eau, c'est pour aider les gens à se nourrir, c'est pour faire de l'école, etc. Mais on sépare complètement ces choses-là de ce qu'il y a de plus important, à savoir le salut de notre âme. Et pour comprendre la charité dans l'esprit de l'Église catholique, il faut tout simplement reprendre le principe et fondement de Saint Ignace. On commence l'exercice par ça. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, servir son âme. C'est voilà pour tout le monde, y compris pour les païens. Alors, donc, le traité commence sur le polycopie. J'ai fait un certain nombre de choses essentielles dans le traité. Donc, je ne vais pas tout mettre sur le polycopie. Encore une fois, on ne peut pas tout mettre, ça serait beaucoup trop. Je vous rappelle que le but de ce cours, c'est aussi de vous faire aimer Saint Thomas. Et rien ne vous empêche, pour ceux qui ont la somme chez eux, ben, tout simplement d'avoir le courage d'ouvrir les livres et de commencer à étudier un petit peu pour compléter ce que je vous dis en cours. Alors, voyons rapidement donc le... Sur le polycopier, j'ai commencé avec la question 23, article 7, page 94. Je ne dis pas bêtise, mais c'est ça. Alors, je voudrais rapidement rattraper un peu ce qui n'a pas été expliqué, ce qui n'est pas expliqué dans le polycopier. Hein. Alors, encore une fois, si on ne comprend pas la charité avec une vision surnaturelle, on est incapable de suivre le texte de Saint-Thomas d'Aquin. Alors, voyons rapidement donc la question 23 jusqu'au article 7. Continuer un peu plus à fond. Sans la charité, peut-il y avoir une véritable vertu ? C'est-à-dire, sans vertu théologale de charité, peut-il y avoir un véritable amour de Dieu ? C'est ça que ça veut dire. Alors, rapidement, les premiers articles de la question 23, sur l'essence de la charité, c'est le titre de la question 23. La charité est-elle une amitié ? Dans le sens fort du terme, et saint Thomas d'Aquin va répondre par l'affirmative, en rappelant cette phrase magnifique de l'apôtre saint Jean, chapitre 15, « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vous appellerai mes amis. » C'est cette phrase qui a été choisie pour... symboliser, si vous voulez, l'amour du bon Dieu qui se manifeste par le sacerdoce. Pendant que le jeune prêtre qui vient d'être ordonné prêtre reçoit le deuxième pouvoir, à savoir le pouvoir de confession, donc il reçoit la deuxième imposition des mains de l'évêque, eh bien on chante ça. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vous appellerai mes amis. Et donc, la charité est donc une amitié. Hein. L'amitié suppose la bienveillance, la réciprocité d'affection, une communication. Hein. Aimons-nous une personne, nous voulons la réciprocité d'amitié. Notre bienveillance mutuelle a pour base un bien communiqué. Dieu nous fait participer à sa béatitude. Dieu ne fait plus que nous faire participer à sa béatitude. Dieu nous fait participer à sa divinité. Nous sommes divinisés en quelque sorte par la grâce sanctifiante. C'est ça la vertu de charité. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que la vertu de charité, théologale de charité, c'est Dieu qui donne et l'homme qui reçoit, mais qui rend quelque chose. Donc on ne peut pas rendre quelque chose à Dieu en tant que tel, parce que Dieu étant parfait, il n'a pas besoin de nous. Mais puisque Dieu nous fait participants à sa divinité, eh bien il faut rendre justement en étant réceptible, comme on dit, c'est ça, réceptible à cette vertu de charité. C'est évident que si une âme est, si vous voulez, est une substance surnaturelle, d'où l'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu, de le posséder, dit le catéchisme. Mais pour que cette âme puisse se remplir de Dieu, il faut que la porte soit ouverte. Et Dieu ne rentre pas dans une âme qui ne veut pas s'ouvrir. Dieu donne les grâces. On a déjà vu ça avec le traité de la grâce, donc je n'y reviens pas. Dieu donne les grâces, mais en même temps, il respecte le libre arbitre de l'homme. Donc quand un homme refuse catégoriquement d'ouvrir la porte au bon Dieu, le bon Dieu ne rentre pas en force. Il ne rentre pas avec un pied de biche pour ouvrir la porte comme un voleur, parce qu'il respecte le fait qu'on ne veut pas cette réciprocité. C'est-à-dire que quand Dieu rentre dans une âme avec la vertu de charité, il exige que cette âme, en quelque sorte, se mette au diapason avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous fait participer à sa béatitude. En soi, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Comment Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, peut-il faire participer à sa béatitude un être créé comme nous, quoi. C'est quelque chose, quand on y pense, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Imaginez, un éléphant qui donne sa force à une petite souris, en gros c'est ça. Voilà. Alors, ici il y a une note dans les livres du Père Le Breton qui est intéressante. Il dit, l'amitié, donc ça c'est pas Saint Thomas, c'est Père Le Breton, l'amitié que nous portons à un ami peut être si grande qu'à cause de lui, nous aimons ceux qui lui sont unis par quelques liens, ses enfants, ses serviteurs, etc., alors même qu'ils nous offensent, ceux qui nous haïssent. Voilà comment l'amitié de la charité s'étend à nos ennemis. Nous les aimons à cause de Dieu, objet principal de la charité. Donc quand le bon Dieu nous demande d'aimer les ennemis, nos ennemis, il ne nous demande pas de nous faire écrabouiller par les ennemis, c'est pas ça. C'est d'aimer nos ennemis, c'est-à-dire d'aimer nos ennemis pour que nos ennemis puissent voir la vérité eux aussi. On va avoir expliqué ça, tout ça, expliquer tout ça petit à petit. Alors, la charité n'empêche pas le bon sens. Prenons un exemple tout simple. Actuellement, on nous rabat les oreilles avec les migrants. Il faudrait accepter toute la pauvreté de l'Afrique en France et en Europe. Bon, le bon sens élémentaire nous fait comprendre que même si la charité s'étend à nos ennemis, on n'a pas le droit de se suicider littéralement, de détruire notre famille, de détruire notre histoire, de détruire nos racines catholiques en France, au moins ce qu'il en reste, tout simplement pour accepter toute la misère du monde. On aide dans la mesure où on peut faire quelque chose pour aider ces gens-là, mais c'est certainement pas en acceptant tous ces migrants en Europe qui vont détruire littéralement tout ce qu'on a fait, tout ce que l'Église catholique a fait pendant 20 siècles, qu'on va aider ces migrants, certainement pas. Parce qu'au lieu de leur donner la civilisation catholique, on va leur laisser nous imposer leur civilisation païenne. Alors, deuxième article de la question numéro 23, la charité est-elle quelque chose de créé dans l'âme? Donc, la réponse est positive. Le mouvement de l'âme qui veut jouir de Dieu à cause de Dieu même, c'est ça la charité. Mouvement de l'âme qui veut jouir de Dieu à cause de Dieu même. C'est-à-dire que j'aime le bon Dieu et donc je l'introduis dans mon âme pour pouvoir m'identifier à lui. Lorsque notre volonté est portée par l'Esprit Saint à un acte d'amour, il est nécessaire que l'impulsion soit donnée de telle manière que la volonté elle-même, libre d'agir ou de ne pas agir, soit le principe efficace de cet acte. La charité est une vertu. Et la vertu, c'est un habitus, une habitude de l'âme. Donc la charité est unie à l'âme comme l'âme au corps. Et la vie de l'âme comme l'âme est la vie du corps. Donc s'il y a une séparation entre le corps et l'âme, on a un cadavre devant nous. De la même façon, si notre âme est séparée de Dieu par le péché, eh bien l'âme devient morte. Donc la charité, c'est une note du Père Le Breton qui est bonne, la charité est unie à l'âme comme l'âme au corps, elle est la vie de l'âme comme l'âme est la vie du corps. Mais elle a en nous une habitude créée, habitude qui est une participation à la divine charité. Donc on dit que, si vous voulez, c'est comme ça qu'on résume, une vertu qui n'est plus animée par la vertu de charité est une vertu qui n'est plus formée. On parle de vertu formée, c'est une vertu qui reçoit la forme. Une forme surnaturelle, cette forme surnaturelle c'est la vie de la vertu, et cette forme c'est la charité. On peut avoir la foi par exemple sans la charité, mais la foi sans la charité c'est une foi qu'on appelle informe, il manque quelque chose. C'est comme, pratiquement comme un cadavre. Avec une différence essentielle, c'est qu'une fois qu'on est mort, ici-bas sur la terre, Alors que quand on a une foi informe, on peut retrouver la vertu de foi par la vertu de charité, par une bonne confession, par un acte de contrition parfait. D'accord ? Donc je répète cette phrase qui explique bien à mon avis la chose. La charité est unie à l'âme comme l'âme au corps, elle est la vie de l'âme comme l'âme est la vie du corps. Mais elle est en nous une habitation, une habitude créée, habitude qui est une participation de la charité divine. C'est-à-dire que Dieu crée dans notre âme un amour de ressemblance. L'homme ressemble à Dieu d'une certaine façon par la vertu de charité en lui. L'homme a été créé, n'oublions pas, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais éteindre mon téléphone que j'ai encore oublié d'éteindre. Pour ne pas déranger pendant le cours. Donc, article 3. Article 3. La charité est-elle une vertu ? Est-ce que la vertu et la charité est simplement un sentiment ? Non, c'est beaucoup plus qu'un simple sentiment. C'est une vertu, dit saint Thomas. Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Donc, la charité est une vertu qui nous unit à Dieu. D'accord ? Donc, une charité qui ne nous unit pas à Dieu, ce n'est pas une vraie charité. Donc, il y a, ça c'est très important, deux règles d'après saint Thomas. Deux règles pour les actes humains, la raison humaine et Dieu. Donc, une conformité à la raison et une conformité à Dieu. Conformité à la raison, c'est la charité naturelle. Conformité à Dieu, c'est la charité surnaturelle. Bon. Encore une fois, il y a une différence énorme entre les deux. Pourquoi ? Parce que charité, une conformité à la raison humaine, c'est conformité à quelque chose de créé, donc charité naturelle. Conformité à Dieu, c'est une conformité à quelque chose d'incréé, à savoir Dieu lui-même. Et donc la charité surnaturelle est infiniment supérieure à la charité naturelle. Et contrairement à ce qu'on pense, vous pouvez ajouter toutes les charités naturelles que vous voulez, vous n'obtenez jamais un once de charité surnaturelle parce qu'il manque l'essentiel. Et actuellement, c'est très très difficile d'expliquer ça aux gens. Parce que les gens réagissent avec les sens au lieu de réagir avec l'âme. Donc ils voient quelqu'un qui... qui nourrit les pauvres, par exemple, dans la rue, quelqu'un qui organise une soupe populaire, bon, très bien, c'est une charité naturelle, c'est très beau. Il faut le faire aussi, mais il manque l'essentiel. Et c'est parfois triste de voir des gens qui font parfois des merveilles au niveau naturel, mais qui sont incapables d'arriver au niveau surnaturel. Ça m'a beaucoup frappé, surtout en Australie, parce que quand je prêchais les retraites en Australie, j'ai loué une maison de retraite pour des gens que je connaissais bien. En Nouvelle-Zélande, c'était pareil, qui était de l'armée du salut. Donc des gens qui font beaucoup de travail sur un plan purement naturel. Ils font du bon travail. Ils s'occupent surtout des repris de justice, des alcooliques, des gars qui sortaient de prison. C'était pas facile. Hein. Ils faisaient des soupes populaires pour nourrir les pauvres. Ils ont fait énormément bien sur un plan purement naturel avec les pauvres, mais il manque l'essentiel. Et j'étais surpris en arrivant, par exemple, dans les campements que j'utilisais pour prêcher les exercices satinias, il n'y a même pas de chapelle. Même pas de chapelle, parce que pour eux, tout est au niveau purement naturel. Alors, ils avaient des tas d'endroits pour garder la nourriture qui est donnée aux pauvres, mais il manque l'essentiel. Ils s'occupaient littéralement que du corps, incapables de s'occuper de l'âme. Parce qu'ils n'arrivaient pas à transmettre. Voilà, il y a quelque chose qui manquait. Pourtant, c'était des gens, humainement parlant, très sympathiques et qui avaient beaucoup de mérite. Des gens qui étaient mariés. Oui.
Et est-ce que c'est parce que les gens, en fait, qui se faisaient aider, ne voulaient pas tout simplement entendre parler de Dieu, quoi.
Si vous voulez, les gens de l'armée du salut s'arrêtaient à un niveau purement naturel. Pour eux, ils s'occupent du corps. Mais l'âme, c'est quelque chose qui les dépassait.
Mais peut-être qu'ils ne le faisaient pas par aspect humain, parce que les autres ne pouvaient pas l'entendre.
Je ne pense pas. Il n'y a pas que ça, à mon avis. C'est que justement, le fondateur, j'ai oublié le nom du fondateur de l'armée du salut, s'arrêter au niveau purement naturel et aider le pauvre, mais sur un plan purement humain. Voilà. Alors, voilà ce que dit... Ce que dit saint Thomas. Donc il faut bien comprendre ça. Donc je répète, la charité naturelle correspond à la règle de la raison humaine, la charité surnaturelle correspond à la règle de la raison surnaturelle, donc à Dieu. Alors attention, la charité naturelle peut aller un peu plus loin que la simple raison humaine. Par exemple, la charité naturelle va aller, par exemple, jusqu'à le Dieu considéré comme grand architecte de l'univers. Bon, vous avez par exemple des sociétés aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de ça, donc des gens qui ont dépassé la simple raison humaine, qui vont jusqu'au grand architecte de l'univers, mais ça s'arrête là. Quand un président américain ou une constitution américaine finit en disant que Dieu nous protège, nous bénisse et bénisse les États-Unis, l'Amérique, très bien, mais c'est Dieu, grand architecte de l'univers. Ce qui est pas mal, c'est déjà quelque chose. J'aimerais bien que Macron ait le courage de dire que Dieu bénisse la France, que le grand architecte de l'univers bénisse la France. Ce serait déjà quelque chose. Bon, bien sûr, c'est pas suffisant. Mais Dieu est aussi le grand architecte de l'univers. Hein. C'est sûr, ça, encore une fois, il faut faire attention, pas tout mélanger. Il y a des gens qui m'ont reproché ça. Ils disent, oui, vous parlez parfois du Dieu grand architecte de l'univers, c'est la franc-maçonnerie. Mais attendez, Dieu est aussi le grand architecte de l'univers. Il n'est pas que ça, il est bien plus que ça. Mais il est aussi créateur du ciel et de la terre. Donc c'est lui le grand architecte de l'univers. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Donc article 3 de la question 23, c'est un article important. Donc je répète, il y a deux règles pour les actes humains, la raison humaine et Dieu. De même que la conformité avec la droite raison constitue la vertu morale, de même la conformité avec Dieu constitue aussi des vertus d'un autre ordre quand nous l'avons dit au sujet de la foi et de l'espérance. La charité est une vertu puisque, suivant l'expression de saint Augustin, elle nous unit à Dieu même. Donc là, c'est clair et net, saint Thomas parle de la vertu théologale de charité. Qui dit théologale dit centrée sur Dieu. Théos, c'est Dieu en latin. Alors, la charité, article 4, est une vertu spéciale, dit saint Thomas. Donc il va citer saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, l'hymne à la charité. Maintenant, ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, subsistent. Mais saint Thomas va bien expliquer, la plus importante, c'est la charité. Donc la foi, l'espérance et la charité subsistent. Donc l'espérance et, la foi, l'espérance et la charité sont trois vertus distinctes, unies mais distinctes. Alors, article 5, la vertu de charité est-elle une ? Je passe rapidement sur les choses qui sont moins plus faciles ou moins importantes. La vertu de charité est-elle une ? Oui, la charité est une. La charité est une à cause de l'unité de la bonté divine, comme la foi est une à cause de l'unité de la vérité divine. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la vraie charité unit, la fausse charité va diviser. On le voit très bien dans le monde moderne, dès qu'on parle de fausse charité, d'une charité purement humaine, tout de suite c'est une division. Chacun tire la couverture à soi, littéralement. Alors que la véritable charité, la vertu théologale de charité, quand elle est dans une âme, unit les âmes. Vous voyez ? Et on le voit très bien, surtout nous, dans les territoires de mission, tous les missionnaires pourront vous dire, ceux qui ont travaillé beaucoup à l'étranger, c'était mon cas, eh bien, même si j'étais étranger dans le pays par le sang, j'avais des coutumes qui n'étaient pas les leurs, j'avais des façons de vivre qui n'étaient pas les leurs, on avait cette union dans la charité. Pourquoi ? Parce qu'on était tous catholiques. Et c'était beau d'ailleurs de voir parfois des gens qui étaient réunis autour de moi pour des messes par exemple dans des coins vraiment, je me rappelle quand j'allais à Rotuma en plein Pacifique ou aux Fidji, aux îles Fidji en plein Pacifique, et bien c'était des gens avec lesquels parfois je ne pouvais pas trop communiquer parce qu'on n'est pas la même langue. Alors, quand ils parlaient anglais on arrivait à se débrouiller, mais quand ils parlaient des langues locales, c'est qu'à des enfants qui ne parlaient pas anglais souvent, bien, c'était très difficile, mais il y avait cette communication par la vertu de charité. Lorsque j'amenais notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel par les paroles de la consécration, ben, ces gens à genoux qui avaient la foi catholique savaient que c'était exactement le même Dieu pour eux, pour moi. D'accord ? On dira peut-être, donc dit le Père Le Breton, on dira peut-être la charité a pour objet Dieu le prochain, cela est vrai, mais Dieu est toujours son principal objet, le prochain n'étant aimé qu'à cause de Dieu. Et justement, le problème de la charité actuelle, c'est qu'on s'arrête au prochain et on refuse de monter vers le grand Dieu. Vous voyez ? Et on le voit très bien dans le monde moderne, surtout en France actuellement, avec cet accueil des migrants, c'est purement naturel. C'est même antinaturel, puisque ça détruit complètement le pays. Article 6, la charité est-elle la plus grande des vertus ? Donc il reprend le 1 Corinthiens chapitre 13, l'hymne à la charité. Ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité subsistent. La plus grande de ces vertus, c'est la vertu de charité. Pourquoi ? Parce que Dieu est la première règle à laquelle la raison humaine doit se conformer. Donc, la raison n'a pas été donnée par le bon Dieu pour s'arrêter au plan purement naturel. La raison doit monter au niveau surnaturel, nous aider à monter au niveau surnaturel. Donc, les vertus théologales, foi, espérance, charité, sont supérieures aux vertus morales ou intellectuelles. Les vertus morales, c'est par exemple les vertus cardinales, la foi, la prudence, la justice, la force, la tempérance, et toutes les vertus qui tournent autour de l'humilité, par exemple. Et les vertus intellectuelles sont sous les vertus théologales. Les vertus intellectuelles, je vous rappelle qu'il y en a, cinq, donc deux pratiques et trois spéculatives. Donc les deux vertus intellectuelles pratiques, c'est l'art et la prudence, et les vertus spéculatives intellectuelles, c'est la science, la sagesse et l'intelligence. Donc, en quelque sorte, la vertu théologale de charité est le chapeau de toutes les vertus, pas simplement foi, espérance, les vertus théologales, mais aussi les vertus cardinales et les vertus, toutes les vertus morales. Donc, les vertus théologales sont supérieures aux vertus morales ou intellectuelles, et explique saint Thomas, au lieu que la foi et l'espérance s'approchent de Dieu pour en retirer la connaissance de la vérité ou la possession d'un bien, la charité nous y unit absolument. Donc la charité, conclusion de saint Thomas, est plus excellente que la foi, que l'espérance et que toutes les autres vertus. Et en fait, on peut même aller plus loin que ça, saint Thomas a bien expliqué que si j'ai toutes les autres vertus, mais qu'il manque la charité, eh bien, il manque en quelque sorte, c'est comme, si vous voulez, c'est une comparaison que vous pourrez prendre, imaginez une chaîne formée de différents anneaux. Bon. Eh bien, s'il n'y a pas la charité, les anneaux sont indépendants les uns des autres. Vous avez une chaîne, une centaine d'anneaux qui unit l'homme à Dieu, et puis s'il n'y a pas la charité, les anneaux sont là, il y a la centaine d'anneaux qui est là, mais ils ne sont pas unis les uns aux autres, ça ne sert strictement à rien. D'accord ? Alors, j'ai résumé un peu ça en bas de la page 93, donc, sur le polycopier, donc au niveau de la charité, donc je vais répéter un peu en partie ce que j'ai déjà dit pour compléter. Donc voilà ce que dit saint Thomas, d'autres passages qui ne sont pas cités dans le livre que je suis. Donc le bien moral consiste, dit saint Thomas, principalement dans une conversion vers Dieu, et le mal moral dans une aversion de Dieu. C'est la définition du péché par saint Thomas d'Aquin. Aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Aversio ad Deo, ça veut dire aversion de Dieu, on se détourne de Dieu, aversion de Dieu. Conversio ad creaturas, on se tourne vers la créature. Donc, le mal moral, c'est se détourner de Dieu pour se convertir à la créature. Le bien moral, c'est se convertir à Dieu pour se détourner de la créature. Ou au moins, ne garder le contact avec les créatures que sous la condition que la créature nous aide à nous rapprocher de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc cette phrase est à mon avis très importante. Je répète, le bien moral consiste principalement dans une conversion vers Dieu, le mal moral dans une aversion de Dieu. On en a proprement parlé amour du monde, l'amour par lequel on s'attache au monde comme à une fin. C'est-à-dire, en gros, c'est ça, ou on prend Dieu comme fin, ou on prend le monde comme fin. Si je prends le monde comme fin, à ce moment-là, je parle de charité purement naturelle. Je suis incapable de m'élever au-dessus du niveau des pâquerettes. Et au contraire, si je prends Dieu comme fin, à ce moment-là, je m'élève, si vous voulez, comme l'aigle qui surplombe tout et qui voit tout d'en haut, parce que justement, je me rattache au principe universel qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Donc, puisque celui-là est libre qui est maître de soi, dit Aristote, celui-là est esclave qui n'agit pas de son propre chef, mais comme mu du dehors. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce que veut dire saint Thomas d'Aquin, c'est que les trois concupiscences, les yeux, la chair et l'orgueil, provoquent l'esclavage. Et on le voit très bien dans le monde moderne, l'homme devient esclave de ses sens. Alors, on parle de liberté à longueur de journée, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres, mais c'est exactement le contraire, nous ne sommes pas libres du tout, parce qu'on est, à partir du moment où on est complètement dominé par les trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, eh bien, on perd tout usage de notre liberté, on devient esclave. On devient esclave de celui qu'on sert. On devient esclave de Dieu dans le bon sens du terme, quand on a un tas de charité surnaturelle, ou on devient esclave des hommes. Alors cette espèce de fausse liberté amène la destruction, si vous voulez, même de la loi naturelle. On le voit très bien. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps sur internet un petit documentaire sur l'Islande. Moi je ne connaissais pas du tout l'Islande, je connaissais seulement les beaux paysages de l'Islande, mais il paraît qu'il y a, d'après le, documentaire, je ne sais pas si c'est vrai, que l'Islande a une vie morale complètement relâchée, au niveau des jeunes surtout, un peu comme en Suède. Et au nom de la liberté, on fait n'importe quoi. N'importe quoi. Donc il n'y a plus de famille, il n'y a plus de Dieu dans la société. La société est devenue complètement paganisée. Alors c'est le retour aux religions ancestrales, d'Odin, de ces trucs-là. Mais il manque l'essentiel, il manque le bon Dieu. Hein? Donc, je rappelle cette phrase, celui est là et libre qui est maître de soi. Donc quelqu'un est parfaitement libre dans la mesure où il est maître de ses concupiscences. Et qui est-ce qui est maître de ses concupiscences? Celui qui, par les vertus que le bon Dieu nous a données pour dominer les concupiscences, va placer les concupiscences sous le pouvoir de la raison et de la foi. Et c'est le cas, par exemple, de ceux qui pratiquent les trois vertus que Dieu a données pour être maître de ses concupiscences, la pauvreté contre la concupiscence des yeux, la chasteté contre la concupiscence de la chair et l'obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. Et on voit très bien, c'est la raison pour laquelle dans le monde moderne, en France c'est clair et net, on supprime complètement la concupiscence pour faire tomber l'homme dans l'orgueil. Parce que l'orgueil est certainement le péché qui nous sépare le plus de Dieu. Donc, autre phrase de saint Thomas qui est très belle. « Dès que la charité, dit saint Thomas, habite dans une âme, elle chasse la crainte qui lui a préparé la place. La perfection ne consiste pas dans l'abandon des biens temporels, c'est là seulement le chemin vers la perfection. » Le bon Dieu ne vous demande pas de vivre dans une grotte ou au sommet d'un arbre. Le bon Dieu nous demande de savoir utiliser les biens autour de nous, dans la mesure où ces biens nous aident à atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés, à savoir le ciel. C'est le « autant que, pas plus que » de très connu de saint Ignace de Loyola, au début des exercices saint Ignace, où on le dit expressément, donc on a le droit d'utiliser les biens qui sont créés, les créatures, autant que ces biens nous aident à atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés. Je vais chercher le texte, je l'ai là, juste à côté. Je vais vous lire le texte même pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est le principe et fondement de saint Ignace qui est extrêmement, extrêmement important. Donc voilà ce que dit saint Ignace. Donc il commence comme ça, c'est la porte d'entrée des exercices. Hein. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur par son moyen de sauver son âme. Et ensuite il dit... Les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. C'est autant que, pas plus que. Autant que c'est les créatures m'aident à aller vers le bon Dieu, j'ai le droit de garder la créature. Autant que cette créature, pas plus que, parce que si cette créature devient pour moi un obstacle pour aller au ciel, je suis coupé. Et quand je commence ce texte de Saint-Ignace, je prends toujours comme exemple le texte même de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Si ton œil droit, ton bras droit, ton pied droit sont pour toi des occasions de péché, coupe, jette au loin, il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied ou une seule main plutôt que d'aller tomber en enfer avec deux yeux et deux pieds et deux mains. » Ensuite, il conclut en disant « Il est nécessaire donc de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu. En sorte que de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. » Et donc nous ne sommes pas libres de choisir notre fin, contrairement à ce que racontent les gens modernes qui sont tous persuadés qu'ils peuvent choisir leur fin, F-I-N. Non, on ne choisit pas leur fin. Ce que j'ai toujours aux gens quand on en parle avec des gens qui m'interpellent là-dessus, mais je dis, mais vous n'êtes pas libre. On est créé que ça vous plaise ou non, vous êtes créature, moi aussi. Et à partir du moment où on est créature, qui dit créature, dit créateur. Et donc quand j'explique le principe et fondement, je dis toujours que tout part du fait que nous sommes des créatures. L'homme a été créé, et c'est ce mot-là que la révolution déteste. Dire que l'âme est une créature, c'est quelque chose que la révolution ne peut pas supporter, parce que qui dit créature dit créateur. Et dès qu'on parle d'un créateur, ça veut dire que la créature est à genoux devant son créateur. Alors l'homme moderne se tient debout et refuse d'obéir. Donc c'est ça qui est absolument essentiel. Et donc l'homme moderne refuse d'être créature, et comme il refuse d'être créature, il se veut créateur, se prétendant créateur, il se prétend Dieu. Donc c'est la divinisation de l'homme. Donc, encore une fois, le bon Dieu ne nous demande pas, dans ce combat terrible pour maintenir la charité en nous, de vivre comme des moines. Les moines ont ces trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, qui les aident à être parfaitement libres. C'est pour ça que les gens les plus libres sur la planète, c'est les moines. Le moine qui est fidèle à sa vocation a totale liberté. Il a totale liberté, pourquoi ? Il est enfermé dans un monastère, des grands murs qui le protègent du monde, mais il est, par la vertu de chasteté, il est maître de la concupiscence de la chair, par la vertu de l'obéissance, il est maître de la concupiscence de l'orgueil, et par la vertu de pauvreté, il est maître de la concupiscence des yeux. Oui. Et donc, il a la parfaite liberté. Alors qu'au contraire, les jeunes qui se veulent absolument libres et qui sont enfoncés jusqu'au cou dans la boue du péché, les surprises parties, les boums, les surboums, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, qui vivent dans le péché à longueur de journée, s'estiment libres, et en fait ils ne sont pas libres du tout, parce qu'ils sont absolument esclaves du démon. Donc, encore une fois, il faut faire attention à bien comprendre toutes ces choses que dit saint Thomas sous l'esprit catholique, c'est-à-dire tout ça pour nous aider à aller vers le bon Dieu. Non, vous avez des gens qui font des pénitences très fortes, mais si ce n'est pas pour le bon Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Dans ces cas, de certaines religions qui peuvent être assez impressionnantes pour les gens qui ne connaissent pas, comme l'hindouisme par exemple. Alors vous voyez des bronzes ou des bouddhistes ou hindous ou d'autres religions qui pratiquent une certaine vie de pauvreté. Quand j'étais au Népal, j'ai vu par exemple des bronzes qui vivaient dans des espèces de grottes avec une certaine pénitence extérieure. Et il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel parce qu'il n'y a pas justement ce contact avec Dieu, avec le vrai Dieu. Alors, en bas de la page 93, on avance un petit peu dans ces résumés des six premiers articles de la question numéro 23. Dans tout péché mortel, il y a aversion loin du bien imméable et conversion à un bien périssable. Aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Je m'éloigne de Dieu, donc du bien immuable, le bien qui ne change jamais, le bien total. Et conversio ad creaturas, je me convertis à la créature. Convertir dans le sens fort du terme, je me tourne vers la créature. On peut expliquer cette définition de saint Thomas du péché, aversio ad Deo, conversio ad creaturas, en disant que on est tous obligés d'adorer quelque chose. Ou on adore le vrai Dieu, ou on adore un faux Dieu. Ou, il y a un proverbe dans beaucoup de pays qui disent l'homme ne peut pas vivre sans une idole. C'est vrai. Ou on vit avec une vraie idole, le véritable Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ou on vit avec un faux idole, une fausse idole. Et c'est tout le travail du démon de faire croire qu'il est le vrai Dieu, parce que le démon est le singe de Dieu. D'accord ? Donc, dans tout péché mortel, dit saint Thomas, il y a aversion loin du bien immuable, on s'éloigne de Dieu, ils sont convertis en bien périssable. C'est pour ça que les conversions sont parfois difficiles, parce qu'il faut couper. C'est comme un chirurgien qui doit couper la gangrène, pour enlever la gangrène, et bien il faut couper le membre. Ce que dit notre Seigneur, il vaut mieux entrer au ciel avec une seule main que tomber en enfer avec les deux mains. Donc le désespoir de la vie, commettre un crime c'est la mort de l'âme, mais désespérer c'est descendre en enfer. Le désespoir de la vie future procède de la luxure. Ça, plus tard, on a déjà vu, j'ai en partie ça, la dernière question, on avait vu dans d'autres traités, on avait déjà vu ça de saint Thomas d'Aquin, là ici il le répète. Le désespoir de la vie future procède de la luxure. Pourquoi ? Parce que si la fin dernière n'est plus une fin surnaturelle, la fin dernière va devenir une fin matérielle. Et les plaisirs de la chair ont tendance à nous couper complètement de la raison, l'usage normal de la raison. Que nous ne goûtions pas les réalités spirituelles des biens, ou qu'elles ne nous paraissent pas de grands biens, cela vient surtout de ce que notre affectivité est infectée par l'amour des plaisirs corporels et surtout des plaisirs sexuels, dit saint Thomas. Car l'amour de ces plaisirs fait que l'homme prend dégoût les biens spirituels et ne les espère pas comme des biens trop difficiles pour lui en quelque sorte. je répète cette phrase parce qu'elle est à mon avis très importante. Que nous ne goûtions pas les réalités spirituelles comme des biens, ou qu'elles ne nous paraissent pas de grands biens, cela vient surtout que notre affectivité est infectée par l'amour des plaisirs corporels et surtout des plaisirs de la chair. Car l'amour de ces plaisirs fait que l'homme prend en dégoût les biens spirituels et ne les espère pas comme des biens difficiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est jusqu'au cou tombé dans l'impureté, eh bien on prend en dégoût les choses spirituelles. Ça nous paraît sans aucune importance. Et c'est la raison pour laquelle on voit très bien que les conversions, la première chose qu'il faut faire quand quelqu'un se convertit, c'est d'arriver à le sortir, si vous voulez, des biens apparents pour le lancer dans les biens véritables, le sortir des biens matériels pour l'amener aux biens surnaturels, qui sont largement au-dessus des biens naturels, des biens matériels, pardon. Le péché donc provient d'une conversion désordonnée au bien périssable. Vous voyez, tous les mots sont importants. Le péché convient d'une conversion désordonnée, dit saint Thomas, au bien périssable. Il y a une conversion au bien périssable qui n'est pas péché, dans la mesure où, si cette conversion est une conversion ordonnée au bien périssable, il n'y a pas de péché. Si la conversion est une conversion désordonnée au bien périssable, il y a péché. Prends le mot conversion dans le sens fort du terme. Quand saint Thomas ici parle de conversion, ça veut dire se tourner vers. Donc, si je me tourne vers les biens périssables, par exemple la nourriture ou la détente, parce que j'ai besoin de me nourrir pour pouvoir vivre, et j'ai besoin de me détendre un peu, sinon je vais exploser, il n'y a pas de problème, parce que c'est contrôlé par la raison. Si au contraire, les biens de la chair, ou les biens de manger et de boire, ou les biens de ce genre, prennent complètement le contrôle de ma raison, à ce moment-là, cette conversion au bien périssable est une conversion désordonnée, donc extrêmement dangereuse. Et là, il y a une phrase après magnifique de saint Thomas: c'est davantage le propre de Dieu d'être miséricordieux et de pardonner que de punir à cause de son infinie bonté. Être miséricordieux convient à Dieu par sa nature même, être justicier lui convient à cause de nos péchés. Ça, c'est splendide. C'est ça que je prends comme sujet de sermon pour dimanche prochain, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que on arrive au temps de la Passion. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche de la Passion. Et la préparation directement au grand triduum sacré du vendredi saint jusqu'au jour de Pâques, du jeudi saint jusqu'au jour de Pâques. Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, dans la Passion, pendant sa Passion, va se présenter comme un Messie souffrant. Or, les Juifs, qu'est-ce qu'ils attendaient? Un Messie triomphant. Et donc, ils ont refusé le Messie souffrant. Et c'est pareil pour nous. On voit très bien notre tendance dans le monde moderne à refuser le Messie souffrant pour ne garder que le Messie triomphant. Et on veut bien donner l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, très bien, il est Dieu au ciel, ça ne me gêne pas du tout qu'il soit là-haut. Mais surtout pas la myrrhe, parce que la myrrhe représente la pénitence, représente la mort, représente la nécessité de faire pénitence en réparation de nos péchés. Donc les gens, qu'est-ce qui se passe dans le monde moderne? On voit très bien l'Église de Vatican II, on refuse ce Christ souffrant. Le problème, c'est qu'en refusant ce Messie souffrant, on fait sauter quelque chose qui s'appelle la miséricorde. Parce que la miséricorde de Dieu, elle se manifeste surtout par les souffrances de sa Passion. Notre Seigneur est miséricordieux dans son humanité, si vous voulez, beaucoup plus que dans sa divinité encore. Donc, il faut bien comprendre les choses, la façon dont je le dis. C'est-à-dire que notre Seigneur manifeste beaucoup plus sa miséricorde en mourant pour nous sur la croix qu'en étant glorieux au ciel. D'accord ? Et c'est le drame, c'est que les gens qui refusent la vie de pénitence, la vie pénitentielle que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ, sont des gens qui se coupent de la miséricorde. Et si on enlève la miséricorde du bon Dieu, après la mort, qu'est-ce qui reste ? Il ne reste plus que la justice. Et c'est ça qui est terrible. Cette phrase, ces deux phrases ont certainement fait partie des plus belles phrases de saint Thomas. Être miséricordieux convient à Dieu par sa nature. Je répète, c'est davantage le propre de Dieu d'être miséricordieux et de pardonner que de punir à cause de son infinie bonté. Être miséricordieux convient à Dieu par sa nature même. Être justicier lui convient à cause de nos péchés. C'est-à-dire que, en quelque sorte, ce que veut dire saint Thomas, c'est que nos péchés vont obliger Dieu à exercer sa justice. De lui-même, à cause de sa divinité, à cause de sa perfection, il ne demande qu'une seule chose, c'est d'être miséricordieux. Donc, la miséricorde est quelque chose de très important. On dit que, il y a une écriture sainte qui nous dit que Dieu conserve chacun de nos noms gravés dans la paume de ses mains. C'est des phrases magnifiques quand il dit par exemple que même si une mère abandonne son enfant, moi je ne vous abandonnerai jamais. Et il compare l'amour de Dieu pour ses créatures comme la poule avec ses poussins. Et donc il faut comprendre ça. Donc ça c'est très important pour convertir les pécheurs. C'est Dieu qui convertit les pécheurs, c'est pas nous. Mais pour convertir un pécheur qui a passé parfois des années et des années loin du bon Dieu, eh bien, il faut la miséricorde. Sinon, on décourage. Surtout quand on prépare les gens en milieu de retraite à la confession générale, s'il n'y a que la justice, ils découragent complètement. Ils disent, monsieur, allez, par contre, j'ai déjà 15 pages de péché, je fais quoi, moi, avec ça? Et attention à la miséricorde. Il y a la miséricorde. Et il faut expliquer aux gens que plus les péchés sont lourds dans notre vie passée, plus le bon Dieu est obligé d'exercer sa miséricorde à notre égard. Et donc, strictement parlant, Dieu a plus d'amour, de miséricorde, exerce plus sa miséricorde à l'égard d'un gros pécheur qu'à l'égard d'un petit pécheur. C'est ce que dit notre Seigneur sous une autre forme, quand il dit expressément, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. C'est-à-dire quoi? Je suis venu pour les pécheurs. Connaître les réalités inférieures, donc page 94, deuxième paragraphe. Connaître les réalités inférieures à nous est meilleur que de les aimer. C'est ce qui explique qu'Aristote fait passer les vertus intellectuelles avant les vertus morales. Mais, dit saint Thomas, l'amour des réalités qui nous sont supérieures et celui de Dieu principalement est préférable à la connaissance que nous avons. Ainsi, la charité est plus excellente que la foi. Cependant, attention, la charité n'est pas possible sans la foi. On ne peut pas avoir la charité sans la foi. On ne peut pas séparer les deux. C'est impossible. Si on a, dans le sens que si on a la charité, on a ipso facto automatiquement la foi. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Et est malheureusement possible. Et si je viens d'un péché mortel, je perds la charité, j'ai toujours la foi, au moins de façon informe, mais je garde au moins les racines de la foi. Alors, maintenant, toujours page 94, l'article 7, on va commencer par faire au moins cet article aujourd'hui, avancer dans cette question 23, hein, qu'on devrait pouvoir terminer, parce qu'il y a que 8 articles dans la question 23, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein, le traité complet de la charité, ben, la question 23, je suis à la question 46, hein, ça c'est bon. Donc, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il se pose la question, y a-t-il une vraie vertu sans la charité? Ça veut dire quoi? Transformer un langage moderne, si vous voulez, est-il possible d'avoir une vertu sans l'obéissance à la loi du bon Dieu, c'est-à-dire l'obéissance aux commandements de Dieu? Est-ce que je peux prétendre aimer Dieu sans suivre ses commandements? C'est ce que nous disent les gens modernes, et même beaucoup de chrétiens faibles qui nous disent, monsieur l'abbé, l'important c'est la vertu de charité naturelle, vous comprenez, d'aimer les pauvres, aider les pauvres, c'est ce qui compte. Bon, mon Dieu se fiche complètement si vous vivez avec la femme du voisin. Mais attendez, comment pouvez-vous chercher à plaire au bon Dieu si vous commencez par vous moquer éperdument du 6e et du 9e commandement, hein, encore une fois, la vertu naturelle ne vaut rien s'il n'y a pas la vertu surnaturelle qui va en quelque sorte nous unir à notre Seigneur Jésus. Donc, y a-t-il quelques vertus sans la charité? La vertu. Et y a-t-il quelques vraies vertus, pardon, sans la charité? Là, il parle de vertus surnaturelles, attention. Donc, on peut traduire comme ça. Y a-t-il quelques vraies vertus surnaturelles sans la charité surnaturelle? Réponse, non. Et là, il cite, encore une fois, saint Paul, hymne à la charité, saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 13. Relisez par vous-même le chapitre 13, qui est assez court, de saint Paul, qui est magnifique, 1 Corinthiens chapitre 13, « Quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que j'aurai livré mon corps pour être brûlé, tout cela ne me sert de rien si je n'ai pas la charité. » Là, on voit très bien dans ce texte que saint Paul parle de la charité surnaturelle. Parce que il dit « Quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres. » Les gens vont dire « Mais c'est ça la charité, nourrir les pauvres. Quand j'aurai livré mon corps pour être brûlé pour les autres. » C'est ça la charité. Cela n'est rien si je n'ai pas la charité. Donc, nourrir les pauvres, donner mon corps pour être brûlé, ce n'est pas la charité, il manque l'essentiel. C'est quoi la charité?
L'obéissance
à la loi du bon Dieu. Et ça, il faut expliquer, réexpliquer constamment ces choses-là au monde moderne. Et là, il y a des gens qui ont fait beaucoup de dégâts dans ce domaine-là. Je pense par exemple à la fausse canonisation de Mère Teresa par Jean-Paul II, tous ces trucs-là, c'était ça. Donc elle s'occupait des mouroirs à Calcutta, et donc elle distribuait tout son bien pour nourrir les pauvres, elle donnait son corps pour être brûlée, mais il manquait l'essentiel, donc elle a, encore une fois, c'est quelque chose de public, elle l'a dit elle-même, jamais elle a utilisé son influence qui était énorme pour baptiser les bébés. Et qui dit, non, il faut respecter la religion des parents. Donc, vous êtes un musulman, eh bien, mourrez comme un bon musulman. Vous êtes un bouddhiste, mourrez comme un bon bouddhiste. Vous êtes un hindouiste, mourrez comme un bon hindouiste. Et donc, elle aurait pu baptiser des milliers de bébés, les envoyer au ciel, eh bien, elle n'a pas fait. Donc, comme le bien principal de l'homme est dans la possession de Dieu, toute vertu véritable doit tendre vers la fin dernière. La fin dernière, c'est Dieu. Les choses ainsi comprises, il n'y a pas de vraie vertu sans la charité qui nous met en rapport avec Dieu. Si l'on entend par vertu une qualité habituelle qui se rapporte à une fin secondaire, on peut admettre qu'il y a plusieurs vertus en dehors de la charité. Avec cette restriction toutefois, que l'on ne donnera pas ce nom aux habitudes qui, n'embrassant qu'un bien apparent, ne sont que des simulacres de la vertu. Il va loin. Et qu'il dit, si vous n'avez pas la vertu de charité qui est un grand C, c'est majuscule, la vertu qui nous unit à Dieu par le respect des commandements de Dieu, eh bien, toutes les autres vertus sont des fausses vertus. Et donc, il cite un texte de saint Augustin qui est très fort. Il n'y a point de vertu dans la prudence de l'avare, qui lui fait découvrir divers moyens de s'enrichir. Il n'y a pas de vertu dans sa justice, qui ne craint pas de blesser les droits d'autrui pour éviter une perte. Il n'y a pas de vertu dans sa tempérance, qui ne met un frein au désir de la luxure que par crainte de la dépense. Il n'y a pas de vertu dans sa force, qui fuit la pauvreté, selon l'expression du poète latin, « travers les mers, les rochers et les flammes ». Mais quand le bien particulier que l'on veut est un bien réel, par exemple le salut d'un état ou tout autre semblable, il y a alors une vertu vraie, laquelle n'est parfaite toutefois que quand on la rapporte au bien final et parfait, à la béatitude, l'amour de Dieu. Par conséquent, c'est la conclusion de saint Thomas, il n'y a pas de vertu absolument vraie sans la vertu de charité. Alors, il y a une note ici importante du père Le Breton. Voilà ce qu'il dit. Il y a des actes bons sans la charité. Attention, on ne peut pas dire que des actes sans la charité sont des actes mauvais. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis que les actes sans la vertu surnaturelle de charité, il manque l'essentiel. Mais en soi, de nourrir un pauvre, ce n'est pas en soi un péché, bien sûr que non. Donc il dit bien, il y a des actes bons sans la charité, mais ces actes ne sont pas parfaitement bons parce qu'ils ne se rapportent pas comme il conviendrait à la fin dernière. Quelle que soit d'ailleurs la droiture de celui qui les fait. Il y en a de même des vertus de justice et de chasteté, et ne sont de vraies vertus que par la charité qui les rapporte à leur fin légitime. Rappelez-vous, un exemple qu'on peut donner, c'est le combat de Louis XIV avec Port-Royal, les jansénistes. Donc il avait envoyé des prêtres pour vérifier un petit peu ce qui se passait dans ce couvent. Et la réponse des prêtres, ça avait été à Louis XIV, ça avait été « Ces sœurs, ces religieuses sont pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. » Pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a la pureté extérieure, il manque la vertu de charité. Et Louis XIV a fait détruire le monastère de Port-Royal. Alors, reprenons un petit peu le texte donc du polycopier, là, page 94. Voilà ce que d'autres textes de saint Thomas d'Aquin. Sans la charité, il ne peut y avoir de vraies vertus. Les moyens ne sont appelés bons qu'en raison de leur ordre à la fin. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver mon âme. Que ça me plaise ou non, c'est comme ça. Mais le bien ultime et principal de l'homme est de jouir de Dieu. Hein? Mais on peut jouir de Dieu que dans la mesure où on suit ses commandements. Et c'est à cela que l'homme est ordonné par la charité. Ainsi donc, il est clair que la vertu absolument véritable est celle qui ordonne au bien principal de l'homme, qui est Dieu. En ce sens, il ne peut y avoir de véritable vertu sans la vertu de charité. Donc, il peut y avoir, si vous voulez, un vrai bien absolument parfait. Il peut y avoir des biens, des vrais biens qui sont relativement imparfaits. et des faux biens. Tout va dépendre, en quelque sorte, de notre connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Il peut y avoir des biens véritables en dehors de Dieu, mais encore une fois, il manque l'essentiel. D'accord ? Donc, reprenons ce texte de saint Thomas. Si ce bien particulier n'est pas un vrai bien, mais un bien apparent, la vertu qui s'y ordonne ne sera pas une véritable vertu, mais un faux semblant de vertu. Et si ce bien particulier est un bien véritable, comme la défense a cité quelques œuvres de ce genre, il y aura vertu véritable. On a déjà cité ce texte. Une véritable vertu ne peut absolument pas exister sans la charité. Vous voyez, saint Thomas insiste, il répète la même chose. Donc, il répète, vous voyez, encore un autre texte de saint Thomas. Et on voit très bien comment saint Thomas, une merveille sur le plan didactique, quoi. Il répète les choses constamment. Moi, je suis pareil. Sans la charité, il ne peut y avoir un acte qui, par son genre, est bon. Non pas seulement parfaitement bon, car il lui manque l'ordination requise à la fin ultime, Dieu. De même qu'il ne peut y avoir une science véritable sans une exacte intelligence du principe premier indémontrable, de même, il ne peut y avoir véritable justice et véritable chasteté s'il manque l'ordination requise à la fin qui se réalise par la charité, quand bien même, pour tout le reste, on se comporterait avec rectitude. Bien dire ce que ça veut dire. Vous pouvez avoir toutes les vertus naturelles que vous voulez, s'il manque l'essentiel, et vous avez tout perdu, quoi. Vous avez tout perdu. Alors, rapidement, le dernier article de la question 23, comment ça, on a terminé la question 23. La charité est-elle la forme des vertus ? Il prend au sens philosophique du terme, attention, hein. Forme des vertus, la forme, en quelque sorte, c'est ce qui donne la vie. Hein. De même qu'on dit, l'âme est la forme du corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un corps sans sa forme, il parle de forme philosophique, hein. Sans sa forme philosophique, à savoir l'âme, eh bien, est un corps mort. Bon. Eh bien, c'est pareil pour la vertu de charité. La vertu de charité, si elle n'est pas... Je veux dire, c'est pareil pour les vertus, par exemple, de foi et d'espérance. Je reprends. Si la foi et l'espérance existent sans la forme donnée par la charité, c'est des fois, une foi et une espérance qui sont des fois moribondes. Pas mortes, mais moribondes. Et voilà ce que dit saint Thomas. Ici, le texte, je l'ai devant moi, de saint Thomas d'Aquin. Donc, la charité est-elle la forme des vertus ? Donc il va répondre en disant bien que la vertu formée, c'est la vraie vertu, la vertu informe, c'est la vertu apparente. Ce qui donne à un acte la fin qui lui convient, ce qui donne à un acte la fin qui lui convient, lui donnant par la même sa forme, saint Ambroise a eu raison d'appeler la charité la forme des vertus, et à la vie de la vertu. Voilà ce qu'il dit, c'est elle, en effet, qui confère la forme aux actes de toutes les autres vertus en les rapportant à la fin dernière. Elle est conséquemment, la vertu de charité, la forme des vertus elles-mêmes, car les vertus ne sont-elles qu'à cause de leurs actes formés. Encore une fois, les vertus sont les véritables vertus dans la mesure où elles sont connectées à la vertu de charité qui nous connecte à Dieu. Avec une note du Père Le Breton, la charité est la forme des vertus comme cause efficace, en leur imposant leur fin. Elle est le fondement et la racine en les soutenant et en les nourrissant. Elle en est la mère en enfantant leurs actes pour la fin dernière. Et donc, c'est la conclusion de saint Thomas. Une vertu véritable est une vertu formée par la charité. Une vertu qui n'est pas formée par la charité est une vertu qui n'a d'apparence, qui n'a de vertu que l'apparence, qui est en fait une fausse vertu parce qu'il manque l'essentiel. Mais ces textes sont très très forts, mais à mon avis sont extrêmement extrêmement importants, et surtout aujourd'hui où il y a une telle pagaille dans les intelligences. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on ait à faire en tant que prêtre aujourd'hui, c'est de réapprendre aux gens à penser droit. Réapprendre aux gens à user normalement de leur intelligence. Et on voit très bien la difficulté actuellement d'enseigner ces choses-là, parce que les gens ne savent plus penser droit. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent avec leur nombril, littéralement. Donc ils pensent qu'avec leur corps, et l'âme n'a plus aucune importance pour eux. Quoi. Voilà, et puis on voit par exemple, surtout ces jeunes adolescents, par exemple, qui sont toute la journée, littéralement, avec, avec des jeux vidéo, avec des petits jeux sur des petits appareils vidéo, des petites consoles vidéo qu'ils ont dans la main. Tout le temps, on les voit accompagnés de leur mère dans un grand magasin, ils ont la petite console dans la main, puis ils jouent avec des jeux vidéo complètement stupides et qui emprisonnent leur intelligence, littéralement.
Et de plus en plus jeunes.
Ah oui, j'ai sur RT, il y avait un truc assez intéressant. RT, c'est une chaîne de Russia Today, Sputnik, maintenant ça s'appelle, je crois que ça a changé de nom. Et donc, il y avait tout un article justement sur les méthodes faites par les Chinois. Bon, ça, je ne suis pas entièrement d'accord avec la méthode, mais ils ont un énorme problème maintenant avec des jeunes qui sont tellement avec la tête dans les vidéos, dans les ordinateurs.
Qui sont
devenus complètement fous avec ça, et des parents ont d'énormes problèmes avec des adolescents de 13-14 ans qui ne dorment plus, qui ne mangent plus, qui ne peuvent plus travailler à l'école parce qu'ils sont dans l'ordinateur tout le temps, des jeux vidéo tout le temps. Et ce qu'ont fait les Chinois, qui manque évidemment la notion surnaturelle, c'est littéralement de prendre ces enfants et de les mettre pratiquement sous un régime militaire pour essayer de les faire. Le faire reprendre le contact avec le réel. Bon, alors évidemment, il manque une notion là-dedans, mais il y a quand même des idées intéressantes là-dedans. Vous voyez ? Et on le voit très bien, c'est ce qui nous pend au nez en France. Les gens sont tellement sous l'influence des écrans qu'ils ne peuvent plus vivre sans ça. Je dis toujours aux gens, est-ce que vous êtes capable de passer une journée sans votre téléphone portable ? Est-ce que vous êtes capable de passer une journée sans vous connecter à un ordinateur ? Si vous savez par vous-même que vous n'êtes pas capable de passer une journée sans Internet, passer une journée sans téléphone portable, il y a vraiment une maladie grave chez vous, il faut vous en occuper, parce que sinon la maladie va vous tuer. Vous voyez ? Alors donc la prochaine fois, on commencera, alors où est-ce qu'on en est là ? C'est la question 24, donc du sujet de la charité, que nous commencerons donc si Dieu veut. La prochaine fois, donc attention, j'ai peut-être déjà dit, il n'y aura pas de cours pendant la semaine sainte. Donc les cours du mardi 27 d'exégèse et les cours du jeudi 29 mars n'auront pas lieu parce que je prêche une retraite et donc je ne peux pas faire tout à la fois, donc il n'y aura pas de cours. Alors aujourd'hui on est combien, donc on est le combien aujourd'hui, le 15, donc on en est là, 15 3 2018, donc on commencera la prochaine fois la question 24, terminée par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pidis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.